Jonas chapitre 1er. Et ce matin, nous continuons notre étude de ce petit livre, le prophète mineur, mais qui contient un message d'une importance capitale pour l'enfant de Dieu, individuellement et aussi collectivement comme Église. Et juste un bref résumé pour nous remettre dans le contexte, ou bien si vous n'étiez pas là dimanche dernier. Le livre de Jonas est un livre missionnaire, ou un Dieu missionnaire qui se soucie profondément du salut des âmes perdues, envoie un prophète Jonas qui est israélite vers un peuple païen avec son message pour eux. Et cela n'est pas surprenant parce que Israël, le peuple de Dieu, avait été choisi par Dieu pour être un peuple missionnaire. Ça, c'était le but principal, justement, pourquoi Dieu avait choisi ce peuple-là pour qu'il apporte sa lumière aux nations. Mais malheureusement, à l'époque de Jonas, Israël vit dans le péché. Israël a le cœur endurci. Israël a perdu son témoignage et conséquemment ne remplit plus son rôle de nation missionnaire. Et pire encore, malgré plusieurs avertissements, le peuple refusait de se repentir. Alors voilà pourquoi nous avons trois thèmes principaux dans le livre de Jonas. Dans un premier temps, ce livre est un réprimande à Israël. Les gens de Ninive, Dieu va aller leur montrer maintenant, en faisant un contraste, les gens de Ninive qui vont se repentir après une seule prédication par un étranger. Israël refuse de se repentir, même suite à plusieurs prédications de leur propre prophète. Quelle honte pour la nation d'Israël. Deuxièmement aussi, vous avez un réprimande adressé à Jonas, le prophète, pour son attitude missionnaire. S'il y avait quelqu'un dans la nation d'Israël, le prophète de Dieu, qui devrait être zélé justement pour ce travail, d'amener la lumière et l'évangile au peuple païen, ça aurait dû être l'homme de Dieu. Et comme vous allez voir dans les études que nous allons voir, Jonas avait une attitude tout à fait différente. Et troisièmement aussi, ce livre est un enseignement à propos de Dieu. Et Dieu merci que nous avons à travers de Jonas ces beaux enseignements à propos de Dieu, le Créateur souverain qui a autorité sur tout. Et cela implique que tous lui doivent obéissance. Dieu le juge suprême qui juge le péché, qui appelle les gens à la repentance. Et Dieu aussi le Sauveur gracieux qui est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et qui est riche en bonté. Alors, lisons notre texte pour ce matin, Jonas chapitre 1er. Et nous allons lire les trois premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alors voilà, ce livre missionnaire commence exactement comme on s'y attend, avec une commission, une grande commission. Et ce matin, nous allons focaliser alors sur quelques aspects de cette grande commission. Alors, tout d'abord, dans cette grande commission, et je dirais même la raison d'être de cette grande commission, c'est parce que dans ces versets que nous venons de lire, il y a du grand péché, qu'on constate qu'il y a du grand péché. Et si vous regardez votre texte encore au verset 2, où Dieu va dire à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. » Voilà la commission que Dieu adresse à Jonas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste... on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'on sait à propos de Ninive? Point de vue matériel, point de vue physique. Alors, elle avait été bâtie à l'époque de Nimrod, si vous allez trouver ça dans Genèse chapitre 10. Elle se trouvait sur la rive du Tigre, ça c'est l'Irak moderne, à environ 800 km au nord d'Israël. Je vais vous montrer une carte tantôt. Alors. Okay. Selon les historiens, elle était peut-être la plus grande ville du monde antique, avait une circonférence d'environ 100 km et sa population totalisait 600 000 habitants. C'est une ville prospère et ses richesses obtenues en grande partie par le pillage des pays avoisinants tels qu'Israël. Et là, vous pouvez voir... ici, vous avez Ninive, et Israël est ici, et là, vous avez la distance qui les sépare. Alors, voilà, Ninive qui est là, dans le royaume de l'Assyrie. Mais Ninive, qui est une ville prospère, était aussi Ninive, la grande ville pécheresse. Dure Ninive, qui est reconnue pour le matériel, est aussi reconnue pour la méchanceté. Et c'est une méchanceté qui n'échappe pas au regard de Dieu, qui va dire à propos de Ninive, verset 2, sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et je pouvais vous dire que les Ninivites n'étaient pas les enfants de Cain. Au contraire, la cruauté était légendaire. On nous dit que même ils ornaient les murailles de leur ville avec des cadavres de leurs ennemis. Et si on regarde quelques textes dans Nahum, chapitre 3, verset 1, pas besoin de les tourner, mais Dieu va dire ceci à propos de Ninive, « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine, qui ne cesse de se livrer au pillage. » Nahum 2.12, il va décrire Ninive comme un repère de lion. C'est figuré, mais on a l'idée qui est là. Le lion qui déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes, et qui remplissait de proies ses antres, de dépouilles ses repères. Et Ninive aussi était une ville idolâtre. On adorait Nanshe, la déesse poisson, et Dagon, le dieu poisson, qui était moitié homme, moitié poisson. Ça, c'était les statues qui le représentaient. Et qui dit idolâtrie, dit aussi en même temps pratique immorale. Et Ninive aussi était reconnue pour ses pratiques immorales. Nahum 3.4 nous dit ceci, « C'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. » Alors voilà Ninive, grande ville prospère, grande ville pécheresse, mais aussi grande ville mûre pour le jugement de Dieu. Le texte encore. Verset 2 va nous dire ceci, Dieu va dire sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout simplement, c'est que la méchanceté de Ninive était à son comble. Et Dieu disait en effet, c'est assez. C'est assez. Le temps du jugement est venu. Et nous ne devrions pas nous tromper, le péché, et ça c'est une vérité fondamentale, le péché attire toujours le jugement de Dieu, d'un Dieu qui est saint et même trois fois saint. Et dans le temps de Noé, le texte nous dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, ou uniquement vers le mal. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, le jugement. Et c'est ce qu'il a fait. À l'exception de Noé et sa famille, parce que Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Le péché aussi a attiré le jugement sur la ville de Sodome et Gomorre. Et je vous lis le texte en Genèse 13:13, les gens de Sodome étaient, quoi, méchants. Et de grands pécheurs devant l'Éternel. Genèse 18:20 nous dit ceci, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru. Et leur péché est énorme. Et vous connaissez l'histoire. Dieu aurait épargné la ville s'il trouvait 10 justes, mais il n'y en avait pas. Et Genèse 19:24 nous dit ceci, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorre, du soufre et du feu. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Et dans un temps futur, lors de la grande tribulation, à une époque où l'Église ayant été enlevée, le mal va atteindre son comble et le même scénario se répétera. Ici, maintenant, c'est la ville, la grande ville, Babylone la grande, le joyau de l'Antichrist, la capitale. Et dans Apocalypse, nous avons ce texte, c'est la richesse, la prospérité est décrite de cette façon. Une ville vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles, mais aussi une ville pécheresse où la méchanceté est à son comble. Une ville qui est remplie du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Babylone, la grande ville idolâtre, remplie d'abominations, sera jugée sévèrement par Dieu. Et Apocalypse 18:2 nous donne ceci, le texte, elle est tombée. Babylone, la grande, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités et en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Et vous savez, l'exemple suprême, le jugement qui est tombé sur le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sans péché, sans tache, innocent, mais qui a pris la place des pécheurs coupables et qui va subir sur la croix de Calvin la terrible colère de Dieu contre le péché. Et vous avez ce beau texte que nous avons dans Isaïe 53:5, beau dans le sens que, oui, on en bénéficie, mais aussi c'est un texte qui décrit justement les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a subi à cause de nous, à cause de notre péché. Ésaïe 53:5 nous dit ceci, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais à travers cela, quel amour du Père. Il nous aimait à un tel point qu'il n'a point épargné son propre Fils pour que nous puissions être épargnés de son jugement terrible. Quel amour du Fils qui s'est sacrifié pour nous. Que son nom soit béni pendant toute l'éternité. On a une raison pour louer Dieu et bénir Dieu justement pour cela. Deuxièmement, dans cette grande commission, il y a du grand péché constaté, mais il y a aussi une grande patience exercée. Une grande patience exercée. Si regardez encore au verset 2, où est-ce que Dieu va dire à Jonas, lève-toi, va à Ninive et crie contre elle. Mais pourquoi? Pourquoi crier contre elle? C'est une ville où le péché est à son comble. Pourquoi tout de suite envoyer un tremblement de terre pour engloutir la ville tout entière? Pourquoi tout de suite ne pas faire tomber du ciel du feu et du soufre pour réduire la ville en cendres? Pourquoi? Mais c'est parce que le même Dieu qui est juste et qui doit juger le péché est aussi un Dieu qui est miséricordieux. qui est même riche en miséricorde et qui prend plaisir à la miséricorde, à un tel point qu'il va donner des avertissements aux pécheurs dans le but de l'amener à la repentance, pour qu'il puisse goûter à sa miséricorde et éviter ainsi son juste jugement. Et cette miséricorde va découler alors une patience extraordinaire avec le pécheur et à l'égard du pécheur. Et nous aimons souvent citer le texte en Lamentations 3, 22, qui disent « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande. » Mais dans la version anglaise, le texte est traduit un peu différemment et ça nous fait réfléchir. Écoutez bien ce que le texte dit. C'est à cause de la miséricorde de Dieu que nous ne sommes pas consumés, parce que ses compassions ne manquent jamais. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et juste pour vous donner quelques exemples de cette patience extraordinaire. Vous connaissez sans doute le nom de l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Methuselah. Vous savez qu'en doute à quel âge il est mort. 969 ans. Mais est-ce que vous savez la signification de son nom? Son nom veut dire « à sa mort, cela viendra ». Et ça fait référence au déluge. Et quand j'ai enseigné le cours d'enseignement moral et religieux à l'école Le Sentier, je m'amusais à faire le calcul avec les élèves, juste pour leur montrer comment est-ce que la Bible est véridique, pour leur démontrer que Methuselah est mort la même année du déluge. Et quelle patience de la part de Dieu de retenir son jugement pendant 969 années. Pauvre Methuselah, hein? Dieu l'a fait taffer. Pour moi, il avait hâte de mourir puis s'en aller au ciel, mais Dieu l'a fait taffer juste pour offrir aux pécheurs l'occasion de se repentir. Nous avons aussi un autre exemple, la patience extraordinaire de Dieu, 120 ans de prédication par Noé lors de la construction de l'arche, prédication pendant laquelle il avertissait les pécheurs du jugement qui s'en venait. 1 Pierre 3:20 va nous dire ceci: autrefois, avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Et quelle patience aussi avec la nation d'Israël. 40 ans, dans l'an 30 de notre ère, cette nation a crucifié leur Messie. Et ce même jour-là, humainement parlant, Israël aurait dû être enrayé de la map. Que se passe-t-il? Le Seigneur invoque sur eux le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et ce n'est qu'en 70, 40 ans plus tard, que le jugement de Dieu va tomber sur Jérusalem. Jérusalem est saccagée par les Romains. Mais non pas avant que cette même ville où le Christ a été crucifié était les premiers à entendre le bon message de l'Évangile. De la bouche des apôtres qui leur disaient: sauvez-vous de cette génération perverse. Et quelle patience aussi encore avec la génération présente, nous aujourd'hui en 2013, où ce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quel Dieu patient, comme Jonas va dire, Jonas 4:2, je savais que tu es un Dieu qui est lent à la colère. Juste un petit mot d'exhortation. Ecclésiaste 8:11, pas besoin d'y tourner, mais le texte dit ceci: parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur de fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Je vais vous relire le texte. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur de fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Et quand j'ai lu ce texte ici, j'ai fait une application personnelle à moi-même. de ne pas abuser justement de la patience de Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas frappés par les foudres immédiatement chaque fois que nous péchons, que nous devrions avoir un cœur qui s'endurcit. Mais au contraire, cette patience extraordinaire de la part de Dieu face à notre entêtement, des fois on a la caboche si dure, devrait plutôt nous convaincre de notre méchanceté, devrait plutôt être un incitatif de bénéficier du temps que Dieu nous donne, qu'il nous donne, justement, avant de nous juger. Dieu nous donne du temps, mais c'est un temps justement pour nous permettre de nous repentir. Et combien est important de prendre cela en compte. Alors, revenons à nos moutons, parce que Dieu est compatissant et miséricordieux. Il est là, la colère, il voit Ninive. Il n'y a rien qui échappe à son égard, il voit le péché. Mais déjà aussi, Dieu voit dans cette ville les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Il voit une occasion où est-ce que le péché abonde, mais une occasion où est-ce que la grâce peut surabonder. Qu'est-ce que ces gens de Ninive méritent, sinon la mort et l'enfer? Mais ça, c'est justement la définition de la grâce. Une faveur imméritée donnée à ceux qui ne méritent pas. Alors, c'est un terrain fertile ici pour la grâce de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait pécher plus pour avoir plus de grâce. Paul y va traiter ce faux raisonnement en Romains chapitre 6, verset 1, quand il va dire ceci. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Sa réponse était non, jamais de la vie. Là. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous, les chrétiens, nous devrions fuir justement le péché comme la peste, travailler à notre sanctification. Mais le texte est dans ce contexte ici, c'est un encouragement de ne pas désespérer dans un contexte d'évangélisation devant un grand pécheur. Parce que cette personne-là peut devenir une trophée de la grâce de Dieu. Et vous avez un exemple par excellence, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui va dire de lui-même à Timothée 1:12, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuté, un homme violent, il a dit, vous voulez avoir un portrait d'un grand pécheur, mais tiens, en voilà un. Mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai obtenu miséricorde. » Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ a quoi? Surabondé avec la foi et l'amour. Wow! Alors Dieu voit le potentiel en Ninive. Il cherche, il voit la moisson, mais il cherche un moissonneur. Et qui trouve-t-il? Jonas, prophète de l'Éternel, il sert Dieu. Même si ses compatriotes baignent dans l'idolâtrie, Jonas est qualifié. Alors Dieu dit, tiens, voilà mon homme. Les choses se mettent en place. Dieu va opérer un grand réveil dans la ville de Ninive. C'est lui qui a décidé le timing. C'est le moment. Il a dit, Jonas, c'est le moment, lève-toi. Ce n'est pas tout. Il va lui indiquer l'endroit. Il y a une place là où est-ce que, oui, je peux faire une œuvre, Ninive. Va à Ninive. Et finalement, Dieu va lui donner même le message. Pas besoin de s'inquiéter ce que tu vas dire. Je vais te dire quoi dire. Crie contre elle le message. Et nous savons que Jonas n'y est pas allé voir Ninive pour dire « Souriez, Dieu vous aime hein? ». Il est allé avec un message « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Soyons équilibrés parce que l'Évangile est une bonne nouvelle. L'amour de Dieu pour les pécheurs qui les délivre des conséquences d'une mauvaise nouvelle. Comme quelqu'un a dit, l'Évangile, c'est une mauvaise nouvelle avant. C'est une bonne nouvelle, mais il y a une mauvaise nouvelle qui vient avant. Et quand on évangile, on devrait inclure les deux dans le message. Jean 3:16, c'est vrai. Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mais Jean 3:36 est aussi vrai. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et Dieu est souverain. Il peut utiliser soit l'amour de Dieu pour attirer des pécheurs vers lui. Il peut aussi utiliser la crainte, justement, de l'enfer, pour aussi attirer les gens vers lui. Et dans mon cas, personnellement, c'est un témoignage personnel, moi, j'étais sauvé à cause de la crainte de passer l'éternité dans l'enfer, loin du Seigneur, dans les souffrances éternelles, parce que j'étais élevé dans une famille chrétienne. J'ai assisté à l'école du monde. Je savais justement toute l'histoire de Jésus-Christ. Je savais aussi que si on mourait sans être sauvé, on ira à l'enfer. Et quand le Seigneur m'a vraiment frappé le cœur avec cette vérité, mais j'ai paniqué puis j'ai crié au Seigneur. Et ce n'était pas long avant que j'étais sauvé. Et quand je suis allé au Seigneur, mais là aussi, j'ai découvert l'amour d'un grand sauveur. Alors, ça c'est justement, on pourrait faire aussi une application rapidement pour nous ici. Mais il ne faut pas attendre que le Seigneur va faire un réveil en Ninive, mais il ne faut pas s'attendre et dire Seigneur, c'est bien de souhaiter un réveil, c'est bien qu'on le Saint-Esprit travaille de façon extraordinaire, mais en attendant aussi, il y a une moisson, la moisson est toujours là. Le Seigneur va dire en Matthieu 9, 37, la moisson est grande. Le moment existe. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le lieu est toujours là aussi. Nous avons notre Jérusalem, nous avons notre Judée, notre Samarie. Nous avons le Cap, nous avons Trois-Rivières, Saint-Tite-Gaspé. C'est là, justement, le lieu. Et nous avons le message. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il manque une chose. Le messager, le moissonneur. Le Seigneur a toujours dit, il n'y a pas d'ouvriers. Est-ce que nous sommes prêts à prier le Seigneur pour dire, envoie-moi dans ta moisson? Alors voilà, Dieu renvoie Jonas à Ninive. Mais malheureusement, dans cette grande commission, nous voyons aussi un grand privilège qui est méprisé. Un grand privilège qui est méprisé. Dieu offre à Jonas le privilège d'être co-ouvrier avec Dieu, dans une œuvre excellente, dans une œuvre avec des résultats éternels, le salut des âmes. Et qu'est-ce que le texte dit au verset 3? Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Je vais vous montrer un peu où se trouve Tarsis. Nous sommes ici, en bas ici. Israël est un peu plus en bas ici. Okay? Là, il va partir, il va s'en aller, là, il va traverser toute la mer Méditerranée, puis il va arriver ici, Tarsis, à peu près en Espagne. Dans la direction complètement opposée. Ici, à peu près, c'est Ninive. C'est là que vous voyez, là. Mais qu'est-ce que Jonas était en train de faire? Dieu est omniprésent. Il ne peut pas s'enfuir loin de sa face. David, dans Psaume 39, 7, va dire ceci, « Où irai-je loin de ton esprit? » Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient quoi? Lumière. On ne peut pas se cacher de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il essaye de faire, Jonas? Mais juste que l'expression « la face de Dieu » est un synonyme. Plus que juste de la présence de Dieu. Dieu est omniprésent. Mais c'est aussi un synonyme qui invoque l'idée d'un Dieu qui est présent, un Dieu qui est impliqué, un Dieu qui agit en faveur de ceux qui le craignent. Et dans Psaume 80, verset 4, le psalmiste va dire ceci, « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face sur nous et nous serons sauvés. » Vous voyez, il cherche l'intervention de Dieu qui va agir favorablement à leur égard. Et Jonas savait que si les Ninivites, ces ennemis de Dieu, ce peuple païen, haï et méprisé par les Juifs, se repentiraient suite à sa prédication, qu'ils obtiendraient le pardon et non pas la punition. Miséricorde et non pas destruction. Et Jonas ne voulait absolument pas cela. Il ne voulait pas en être impliqué. Il avait son propre agenda. Et les païens n'étaient pas sur la liste. Et quel contraste avec Abraham, l'intercesseur. Dans Genèse 18, 22, qu'est-ce qu'on lit à propos d'Abraham? Quand Dieu, les anges s'en vont vers Sodome, Abraham se tint toujours en présence de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va faire? devant la face de Dieu, en présence de Dieu, il va intercéder, il va intercéder, il va dire à Dieu, si tu trouves 50 justes, veux-tu épargner la vie? Dieu dit, oui, mais il n'était pas certain d'en trouver 50. Il ramène à 45, puis il baisse jusqu'à 10. Tellement il y avait le souci des âmes. Quel contraste avec Abraham et aussi avec Jonas. Mais Jonas refuse l'offre que Dieu s'adresse. C'est comme un peu comme des banquiers là aussi, quand de refuser. Mais ça, c'est Jonas. Et il fuit sa responsabilité en s'assurant qu'il ne serait pas disponible, en s'allant le plus loin possible dans la direction opposée à Tarsis. Et ça, c'est le mépris pour le grand privilège que Dieu, justement, lui a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, rapidement, il descend à Jaffa. C'est une ville portuaire. Et ça semble avancer comme sur les roulettes. Il trouve un bateau. Il y a un bateau là qui s'en va à Tarsis. Waouh, c'est merveilleux. Et en plus de ça, il y a assez de cash pour payer le voyage. Hey, extraordinaire. Puis là, il n'est pas sûr, il y a des passagers qui s'en vont à la même place. Hey, ça va être une bonne gang ce bateau là. On va compter des bonnes blagues, on va avoir du fun, puis let's go. On pourrait dire que waouh, Dieu il est bon pour Jonas. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que tout est smooth que c'est un signe de bénédiction. Jonas est carrément hors de la volonté de Dieu, mais Dieu est encore une fois, il est patient avec Jonas. Il va laisser aller jusqu'à un certain point avant d'intervenir pour le ramener au centre de sa volonté. Et c'est pourquoi? Parce que Dieu ne perd jamais de vue son plan pour nos vies. Romains 8, 29 nous dit ceci, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, et c'est à quoi il travaille. Et même si nous sommes infidèles, de Timothée 2, 13, lui, il reste fidèle à sa personne. Il reste fidèle à ses plans, il reste fidèle à sa personne. Et il intervient, même si parfois il doit parler fort. Et c'est ce qu'on va apprendre. Je ne volerai pas le punch de mon frère Stéphane, là, mais c'est ce qu'on va voir dans les textes qui vont suivre. Je pense en train de dire que toute épreuve, là, grosse épreuve, c'est une évidence à des obéissances. Job était obéissant, intègre et droit, il a subi des épreuves. Mais je peux vous dire une chose, une désobéissance flagrante va attirer tôt ou tard la correction de Dieu, la correction d'un père d'amour qui nous aime trop pour ne pas intervenir. Alors, en terminant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas être une Jonas? Nous qui sommes pris avec des cœurs qui sont tortueux par-dessus tout et qui sont si méchants, ça c'est Jérémie 17, 9. Que faire avec des cœurs qui sont des fabriques d'idoles et qui nous mènent si souvent loin de la volonté de Dieu? J'aimerais vous suggérer une simple prière que vous pouvez faire la vôtre et que Jonas aurait dû aussi faire la sienne. On va retourner dans Psaume 139. Parce que le texte dit « fuit loin de la face de Dieu ». Mais la Psaume 139 termine justement avec la solution pour cette problématique. Et le texte dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Ça aurait dû être la prière de Jonas. « Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est une grâce que Dieu nous accorde, et sur une telle voie. Vous et moi, nous connaîtrons la bénédiction de Dieu, et nous serons aussi nous-mêmes une source de bénédiction. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ, qui a suivi fidèlement le chemin tracé par le Père, qui a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, mais qui a été béni, comme nous avons vu ce matin, souverainement élevé. Il est devenu le roi des rois, un prince et un sauveur, et aussi qui a été une source de bénédiction extraordinaire. Vous et moi, nous avons été sauvés. Nous avons la vie éternelle. C'est toutes des bénédictions qui ont découlé justement de quelqu'un qui a marché sur le chemin que le Seigneur lui avait tracé. Et que nous puissions avoir la grâce justement d'imiter notre Sauveur et de rester justement dans le chemin qu'il nous trace afin de glorifier son nom, afin d'être béni et aussi afin d'être une source de bénédiction pour d'autres. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grâce et pour ta bonté, ta fidélité aussi à notre égard. Merci pour qui tu es, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, qui est extrêmement patient. Et ce matin, nous te remercions, Seigneur, pour cela. Tu as des plans pour nous, des plans de bonheur et non de malheur. Et Seigneur, nous prions que nous puissions marcher dans le chemin que tu nous as tracé. Donne-nous la grâce de nous humilier sous ta main puissante, de confesser nos péchés quand le Saint-Esprit nous rappelle que nous t'avons attristé. Et de chercher ta face, Seigneur, comme le psalmiste dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde-moi si je suis une mauvaise voie. Seigneur, conduis-nous individuellement, conduis-nous collectivement sur la grâce, sur la voie de l'éternité. Que ton nom soit béni, sépare-nous avec ta bénédiction, au nom de Jésus. Amen.